Non, ça aurait pas été anticapitaliste, enfin. Je sais que je peux dire ça parce que c'est Radio Campus.
Radio Campus, la radio qui vous secoue les puces.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là. » Ah, mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé.
Bonjour, vous écoutez Le Matou revient jusque 9h avec Patachou. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. On en cause beaucoup, agit-on peu. La santé mentale faisait l'objet d'un congrès en novembre dernier organisé par la Société française de santé publique, une association indépendante qui œuvre à proposer des réflexions collectives et éclairer la société sur les enjeux de santé. On en a beaucoup parlé, on en a appris sur les freins, les leviers et aussi les actions menées dans ce domaine, même si les soutiens publics ne sont pas toujours là, voire de moins en moins là. Plus de 1000 personnes donc ont échangé sur cette thématique, des soignants, des chercheurs, des éducateurs, des sociologues et aussi des personnes concernées par le trouble psychique, tant il est maintenant gagné que l'on ne fait rien sans nous. On y a donc parlé de participation des usagers aux décisions qui les impactent, des moyens de sensibiliser les citoyens à leur santé mentale et à la stigmatisation de ceux qui en souffrent, des maladies comme les cancers et les liens avec la santé mentale, des lobbies industriels aussi qui empêchent les avancées en santé. On a aussi écouté des initiatives salutaires, des mouvements de l'éduc-pop et de l'économie solidaire, comme cette association qui intervient dans les collèges ou les entreprises pour lever les tabous, ou comme le COFOR, centre de formation au rétablissement autogéré, qui a fait son nid à Marseille et à Lille. Le COFOR ne fera pas l'objet aujourd'hui d'une présentation, mais vous pouvez écouter un reportage déjà réalisé sur le site Bandcamp du Matou, lematourevient.bandcamp.com. On va tout de suite écouter tout de même une présentation pas très orthodoxe de ce COFOR.
Je prends du café au COFOR.
On les co-construit sans effort.
Si, il y a des efforts.
Le COFOR, c'est des efforts.
Et du réconfort.
J'attends plus la CAF, j'ai plus le cafard.
C'est mon phare, on perd pas le nord.
On est des warriors, ça donne du ressort.
C'est le cocon d'abord.
À bâbord, il y a les Açores. À tribord, il y a les Comores.
Et devant surgit le cofort.
On peut s'exprimer, on peut s'écrier, on peut s'affirmer, on peut traverser.
On peut s'organiser.
On peut s'entraider, on peut y danser, on peut y chanter, on peut même pleurer.
On peut même pleurer.
On peut même pleurer.
On peut même pleurer.
C'est le cocon d'abord.
C'est mieux qu'un effexor.
Ici, pas de chef, pas de keuf, pas de tôle, pas de toxique, pas de cafard, pas de panique, juste du confort.
C'est le cocon d'abord.
Il n'y a que des copains.
Trouve du réconfort.
Le cofort, c'est confort.
Le cofort, c'est fort.
Le cofort, ça mord.
Et oui, le COFOR, c'est fort et ça mord. Alors, je vais vous présenter durant cette heure quelques interviews réalisées durant ce congrès. On commence avec un atelier original qui a été animé par l'art thérapeute Nora Natchkova. Une manière différente d'aborder cette question qui utilise le corps pour accompagner l'autre dans une danse de l'enveloppe où la personne aidante accompagne et accueille la personne en souffrance en épousant ses mouvements. Le corps devient alors un langage pour communiquer et soigner.
Merci. Merci. Prenez le temps de revenir sur cette scène.
de recherche en art thérapie qui s'appelle le response art, c'est-à-dire l'art clinique, l'art qui est fait en réponse à ce qu'on vit dans notre quotidien, dans l'interaction, dans la relation avec les patients et les patientes, à la fois pour aller rechercher qu'est-ce que ça nous fait à nous au niveau du ressenti, et donc de trouver un espace dans la création pour l'extérioriser, ne pas encombrer ensuite la relation thérapeutique. En tout cas, moi, je la nomme thérapeutique, mais chacune la nommera comme vous le souhaitez. Et puis aussi, que cette possibilité-là de passer par les ressentis, par le corps et par l'environnement peut permettre aussi d'avoir un décalage dans sa pratique et peut-être de faire attention à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude ou auxquelles on ne pense plus et qui sont aussi partie prenante de la relation avec les patients et patientes, dans l'idée de se sentir mieux. Et donc ça, c'est une importante partie du response art, comment se sentir mieux même quand on vit des choses compliquées au travail. Comment aussi questionner ses propres biais, comment mettre en réflexion notre propre pratique, ce qui est toujours demandé aux patients et patientes, ce que les patients et les patientes font beaucoup, très souvent, puisqu'on est aussi là dans un parcours de soins et donc de réflexivité, et qui peut nous aider donc d'aller mieux, mais aussi de laisser toute la place aux patients et aux patientes. Ce que je vous propose pour la suite, je vais passer d'autres petits billets pour écrire à la main, ce qu'on ne fait plus trop. C'est juste un petit billet sur lequel je vous propose de réfléchir à une situation dans laquelle qui vous parle de vulnérabilité, de qualité de présence dans votre travail. Je vous demande pas ce que vous faites, mais pensez, soit vous êtes dans un travail de soins, donc avec une patiente. Si vous êtes aidant-aidante avec la personne aidée, et si vous êtes aussi en souffrance psychique, aussi à une situation dans laquelle votre corps a une certaine qualité, donc plutôt une qualité, ça peut être vulnérabilité, ça peut être, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord, c'est pas une question, c'est vraiment qualifier un lieu qui vous interpelle au niveau d'une présence corporelle avec, dans la rencontre avec un trouble psychique. C'est clair. Alors, l'idée c'est. Ok, je lis. Je mets les pieds de côté. Je me mets dans cette qualité de présence, dans cette pensée, dans cette émotion, dans quelque chose que ça m'évoque. Qu'est-ce que je peux, sans le jouer, sans le surjouer, mais qu'est-ce que ça me fait? Comment je peux pouvoir danser avec ça? Une personne du groupe va m'accueillir. C'est-à-dire que la personne ne sait pas du tout ce que je vis. La personne va me recevoir et elle va adapter sa danse à la mienne. Et les trois autres personnes ou les deux autres personnes vont regarder simplement, observer, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, de manière complètement objective, sans dire c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez une personne qui danse, une autre qui l'accompagne et ne sait pas du tout qui elle accompagne. D'accord?
Quand on dit accompagner, il se passe quoi?
Présente-toi, Isabelle. Je dis mon nom.
Quand tu veux.
Bon, je m'en tiendrai à Isabelle, alors.
Du coup, tu as participé à cette séance. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu es venue ici? Pourquoi tu as choisi de venir à cette séance?
En fait, j'avais vu sur le programme, ça m'avait interpellée et je n'ai jamais participé en fait à ce type d'atelier art-thérapie. Donc c'était un questionnement, sans doute une volonté de découverte. Et en fait, je ne suis pas sûre que j'aurais choisi cet atelier si je n'avais pas rencontré au préalable la personne qui allait animer, l'art-thérapeute en fait, avec qui j'ai pu échanger et du coup qui m'a donné envie de venir vraiment découvrir ce que c'était.
D'accord.
Et pouvoir éprouver.
Et alors, comment ça s'est passé?
Je trouve que c'est une belle découverte parce qu'on apprend un autre langage. Enfin, on redécouvre aussi son corps, en fait, et ce qui peut passer par le corps, les émotions, l'expression, ce qu'on peut en faire, comment on peut accompagner ou pas l'autre. Et voilà, que c'est un vrai outil de communication et d'expression qu'on oublie souvent.
Et comment, du coup, tu t'es sentie? Parce que tu étais personne accompagnante, en fait, dans la situation où il fallait danser autour de la personne qui était en difficulté et puis essayer de l'accueillir. Comment tu t'es sentie?
C'était très éprouvant, en fait. La personne exprimait une très grande détresse, une très grande douleur, avec des mouvements du corps que j'ai essayé d'accompagner, mais qui mettaient aussi mon corps à l'épreuve, mon cœur peut-être aussi, sans doute. C'est sans doute un lapsus révélateur. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de pouvoir l'accompagner, d'être un peu enveloppant, d'accueillir sa détresse, essayer de la rassurer sans pouvoir trop s'immiscer en même temps, tout en essayant d'essayer de respecter son espace. En voulant la soulager, mais c'était très compliqué en fait. On sentait que la personne était vraiment prise, empêtrée dans sa détresse, dans sa douleur, dans sa souffrance. Et du coup, on éprouve les limites de son corps, du coup, dans ses mouvements, à pouvoir accompagner, épouser l'autre. Et puis les limites de l'accompagnement aussi, quoi. Mm-hmm. C'était une belle découverte aussi, du coup, de ce que c'est qu'un accompagnement par le corps.
Est-ce que ça peut donner des idées du coup, je ne sais pas si c'est dans ton travail ou dans d'autres sphères, d'utiliser ce type d'approche?
C'est pas directement dans mon travail, il va falloir que je me creuse un peu pour convertir ça dans mon travail, mais bon, pourquoi pas, on peut imaginer en tout cas que, je pense, en fait, c'est un défaut qu'on a, de ne pas pouvoir penser cet outil-là qui est à notre disposition en permanence. On devrait pouvoir effectivement l'intégrer de manière systématique et je pense en fait beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et ça montre notre manque de créativité et les outils de communication qu'on a, qu'on utilise, qui sont la parole, le regard, l'expression verbale, mais qui sont très limitatifs en fait. Et on devrait être beaucoup plus créatif.
Donc ton métier, c'est quoi?
En fait, je suis sociologue. Et j'ai notamment fait des recherches participatives en santé mentale. Et du coup, c'est vrai que ça nécessite d'être disponible aussi, à l'écoute des personnes, d'être dans un autre rapport et une autre relation à l'autre. Et sans doute que là, le corps est aussi sollicité, en fait. Et comment... Bon, souvent, on le néglige, mais c'est certainement un des outils très présents. Et on doit aussi, sans doute, repenser nos modalités d'échange et d'entrer en communication avec l'autre et être plus créatif dans les outils qu'on utilise. Et ça peut passer par le corps. Et ça me fait penser à une des personnes qui a participé à notre recherche qui n'avait pas la parole et avec qui on ne pouvait pas utiliser le langage pour parler, se comprendre, se faire comprendre, mais qui a toujours été présente parmi nous, pour qui c'était important de participer à nos séances de travail. Et sans doute que là, il se passait quelque chose et que c'était par le corps, que des émotions, qu'il y avait tout un tas de choses qui passaient en fait. Ça nous montre à quel point on doit un peu plus penser sans doute cet outil-là comme... un mode de langage, quelque chose à investir beaucoup plus dans la capacité à entrer en échange avec l'autre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Je vous propose d'écouter une autre découverte faite durant ce congrès. Alors c'est le jardin, un centre de santé communautaire et planétaire. Dans cet espace d'accueil vaste et lumineux se croisent des personnes attendant un médecin, d'autres leur psychiatre du CMP, d'autres encore y passent pour rejoindre une salle d'activité, participer ou animer un atelier d'art plastique, une activité sportive ou prendre part à un groupe de parole. Alors on est au centre de santé communautaire et planétaire de Bron, près de Lyon. Il est appelé le jardin et partage les mêmes locaux que le CMP ainsi qu'un jardin attenant. Alors cette association originale veut proposer une approche du soin plus globale, plus accessible et plus écologique. Elle intègre dans ses pratiques la participation réelle des usagers, notamment des quartiers populaires voisins.
Alors, on y fait des prescriptions de nature, on propose des alternatives aux médicaments, on pratique le soin en prenant soin. Et le principe agit. Des personnes qu'on dit vulnérables se transforment, reprennent confiance, reprennent soin d'elles. Le concept SM à présent dans la métropole lilloise à Fâche-Thumesnil.
Je m'appelle Gwenaëlle Ferré, je suis coordinatrice d'un centre de santé communautaire et planétaire qui est dans la banlieue de Lyon, à Bron, qui s'appelle Le Jardin.
D'accord. Alors vous avez parlé là précédemment d'un projet qui a été mené avec un CMP.
Oui, depuis 3 ans et depuis la création du centre de santé dans lequel je travaille, on est installé dans les mêmes locaux qu'un centre médico-psychologique. Et donc on partage ensemble et les locaux et tout un tas de projets en commun autour d'une équipe soignante très motivée. Par exemple, la première des choses, c'est qu'il y a une seule porte d'entrée, ce qui permet de lutter contre la stigmatisation, notamment en santé mentale. Tout le monde attend dans la même salle d'attente, qui viennent pour de la psychiatrie ou pour de la médecine générale. Donc ça veut dire que tout le monde côtoie les tout petits bébés de 2 semaines qui viennent pour leur première visite, ou les personnes très âgées, les personnes qui viennent pour un atelier collectif de promotion de la santé, par exemple. Donc tout le monde peut profiter des activités de la salle d'attente collectivement.
Comment ça s'est créé ? Enfin, à partir de quels besoins, quelles envies ?
Le CMP de Bron était dans des locaux un peu trop grands, ce qui arrive parfois avec les restructurations hospitalières. Et nous, on était une équipe qui souhaitions monter un centre de santé communautaire. Donc, un centre de santé communautaire, c'est qui est très ancré dans la participation des usagers et des usagères et qui lutte contre les inégalités de santé dans une perspective de transformation sociale. Et la direction de l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon a entendu parler de notre projet par le biais de notamment d'actrices de terrain, des conseils locaux de santé mentale qui savaient qu'on cherchait des locaux un peu partout. Et par le biais aussi grâce à Médecins du Monde. Hein. Tout ça, c'est des histoires aussi de partenaires et de partenaires militants, beaucoup. Et ils nous ont donc proposé d'intégrer les locaux du CMP et donc de partager cette grande maison toutes et tous ensemble, à la condition qu'on prenne aussi comme patients dans nos patients, parce que le centre de santé, c'est de la médecine générale, mais qu'on suive les patients du CMP, ce qui n'était pas du tout un problème pour nous, parce que notre objectif était de suivre toute la population de Bron, la ville dans laquelle on est, qui n'avait pas de médecin traitant, quoi. Peu importe que ce soit des personnes avec des troubles psychiques, des personnes vulnérables, enfin voilà, que c'était pour tout le monde, quoi.
D'accord. Donc vous organisez aussi des activités ensemble, enfin c'est quoi les partenariats que vous menez ?
On organise beaucoup, beaucoup d'activités collectives parce qu'on pense en santé communautaire et nos collègues de la psychiatrie nous rejoignent tout à fait, que le soin, ça passe aussi par le collectif, ça passe par le lien social et qu'on peut aussi transformer les manières de se soigner, notamment en raison de l'urgence écologique et travailler à la déprescription quand c'est validé par la science.
Alors la déprescription, oui. Vous pouvez en dire plus et son intérêt ?
Alors, la déprescription, c'est d'admettre qu'il y a pas mal de traitements et de médicaments aujourd'hui qui sont prescrits, malgré un impact pas forcément favorable pour la santé des personnes, où la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur du patient. Et puis, d'autre part, on sait que sur le bilan carbone du monde de la santé, la question du poids des médicaments est énorme. Et donc, c'est vraiment un des axes de travail pour décarboner la santé, c'est la déprescription. Et donc, il y a pas mal d'alternatives qui existent et qui sont validées déjà autour des ateliers de thérapie cognitivo-comportementale, donc qui sont des ateliers collectifs suivis pendant 6 semaines, 2 heures à chaque fois, pendant donc 6 semaines, où les patients et les patientes, orientés par les professionnels des 2 structures, vont travailler ensemble à une nouvelle manière d'appréhender, par exemple, les troubles du sommeil, par exemple les douleurs persistantes, par exemple la dépression, et de le travailler en collectif grâce à des méthodes de TCC et d'activation comportementale.
D'accord. Alors, il y a également un jardin, un travail sur l'alimentation, c'est important ça ?
Alors, on sait de plus en plus à quel point les questions de déterminants de la santé impactent notre santé, bien plus que l'organisation du système de santé. Et on se dit, nous, qu'on a envie de pouvoir travailler sur notre lien avec la nature, mais aussi la littératie en santé des personnes, en se disant que plus on est actrice et plus on connaît notre santé, plus les professionnels valident l'expertise qu'on a de notre propre état de santé, mieux c'est pour tout le monde. Et effectivement, dans le jardin, il y a donc un jardin dans notre centre de santé, et qui est assez grand quand même, et donc avec des ateliers de jardinage animés par une maraîchère en ce moment. Alors, les récoltes ne sont pas encore fabuleuses, on démarre quand même, ça fait que 3 ans, ça met plus longtemps quand même à faire des jardins, mais en tout cas, on sait bien à quel point renouer avec la nature, le lien avec la nature, il est hyper important pour notre santé mentale comme somatique. Et il y a aussi quand même cette notion de travail autour de l'alimentation et de l'activité physique. On sait bien, aujourd'hui, les dernières recommandations de l'HAS le disent bien, qu'il y a quand même un axe très fort autour de... que par exemple, sur les questions de diabète, c'est d'abord l'alimentation et l'activité physique qu'il faut travailler. Mais plutôt que de regarder le comportement des gens qui ne mangent pas bien ou qui ne font pas assez de sport, ce n'est pas comme ça qu'on aborde les choses. C'est plutôt par le biais du collectif, en prenant en compte l'impossibilité pour les gens parfois de s'alimenter différemment, l'impossibilité pour les gens parfois de faire du sport, et de proposer, d'essayer de trouver ensemble avec elles et eux les manières et les conditions dans lesquelles ce serait possible de s'alimenter différemment et de faire du sport. Concrètement, ça veut dire qu'on a des ateliers de sport toutes les semaines, d'activités physiques adaptées, pour pouvoir se remettre doucement avec une prof, dans les locaux du centre de santé. Et en fait, ça désemplit pas, mais on sait bien le succès des maisons sport santé aussi, ça a fait beaucoup écho, que faire du sport chez son médecin, ça fait partie des moyens qui nous permettent de nous remettre au sport tout doucement. Et sur l'alimentation, on a des partenariats. Par exemple, il y a à Lille beaucoup l'association VRAC qui est présente et qui permet de travailler sur les questions d'une alimentation saine, équilibrée, locale, bio, à des coûts défiant toute concurrence et qui permet cet accès-là, notamment dans les quartiers populaires.
Alors, on parlait de participation, de place des usagers. Là, quelle place ils ont, les usagers, les patients, entre guillemets?
Alors, on essaye que ce soit transversal. On essaye de reprendre à notre compte « Rien sur nous, sans nous », ce fameux slogan. On essaye, en tout cas. Parce qu'effectivement, le centre de santé, au départ, c'est une initiative de professionnels. Et donc, tout notre défi à nous, c'est vraiment de faire le plus de place possible aux usagères et aux usagers, qui donc ont créé un club des usagères et usagers, qui désormais anime beaucoup d'ateliers collectifs de prévention et de promotion de la santé. On a maintenant aussi une demi-journée par semaine qui s'appelle « Viens, on discute » et qui est un temps qui est en train de se transformer en permanence d'entraide communautaire, donc qui est vraiment dédié à du soutien entre usagères et usagers, où il n'y a pas besoin que nous, on soit là, il n'y a pas besoin de nous, sauf si on nous interpelle. Et là, c'est les personnes concernées qui nous interpellent. Il y a aussi l'idée de faire intervenir des médiateurs pairs en santé mentale et aussi de permettre aux patients, aux personnes concernées de monter en compétences en essayant de réfléchir aux méthodes les plus adaptées. Après, on a 3000 patients, donc c'est pas toujours évident de s'occuper individuellement de chacun des 3000 et de ses perspectives par rapport à ces questions-là. Mais il y a aussi l'idée que les usagères sont aussi, et usagers sont rentrés dans le conseil d'administration cette année et vont très vite y devenir majoritaires et donc vont gouverner la structure. Et je pense qu'en termes de gouvernance, c'est intéressant. Avec une réflexion collective, toujours dans un contexte d'autogestion de l'équipe, donc de copilotage avec le conseil d'administration, comment l'équipe et le conseil d'administration peuvent penser de manière fine les enjeux financiers, les enjeux de conditions de travail, les enjeux d'amélioration du service rendu collectivement. Et donc ce travail-là, il n'est pas... encore toujours très bien pensé et il n'est pas encore toujours comment on va dire, c'est pas un réflexe en France en tout cas, parce qu'en fait on consulte beaucoup, mais par contre on n'est pas forcément on est quand dans la consultation des usagers et des usagères, mais par contre dans la mise en œuvre concrète et réelle, et notamment quand il va s'agir d'usagers issus de quartiers populaires très vulnérables, leur faire la place dans la gouvernance de la structure, ça demeure pour nous, on est obligé de s'inspirer, et c'est super leur travail, des assos de patients qui eux ont l'habitude de tout ça. Voilà.
Et alors, est-ce que vous voyez déjà des résultats, des changements chez les personnes? J'imagine qu'effectivement elles peuvent aller chez le médecin et puis en même temps être suivies pour des problèmes psy. Comment ça améliore aussi leur parcours?
Alors oui, on voit beaucoup d'évolutions. Il y a une étude de l'IRDES qui démarre actuellement sur nos deux équipes du CMP et du centre de santé pour justement mesurer l'impact de ce travail en commun. Parce que là, moi, ce que je peux vous raconter, c'est uniquement des retours très sensibles de ce que moi je perçois. C'est valable aussi, ça compte. Mais c'est intéressant quand c'est intégré dans une recherche avec une organisation méthodologique adéquate. Néanmoins, oui, il y a beaucoup de patients et de patientes qui venaient à reculons, qui venaient que chez le médecin et qui, au fur et à mesure, ont pris beaucoup de place dans la structure, dans la salle d'attente, dans les ateliers collectifs qui animent des ateliers, qui sont devenus complètement indispensables et qui ont repris beaucoup de confiance en eux. Parfois, quand les gens réussissent à retourner dans une activité professionnelle aussi, après un parcours long avec nous, collectif, individuel avec les médecins ou les médiatrices en santé, c'est fait partie des victoires pour tout le monde, en premier lieu pour les patients et les patientes d'ailleurs. Mais oui, il y a beaucoup de transformations, de gens qui prennent beaucoup de confiance, et c'est vraiment notre objectif à nous, parce que nous-mêmes, en travaillant dans cette structure, les professionnels, on a pris beaucoup confiance en nous aussi. Donc je pense que l'idée, c'est de créer un dispositif qui prend soin des personnes et qui prend soin des travailleurs et des travailleuses aussi, et de continuer à faire en sorte que cette structure fasse les deux à la fois.
Alors, donc ça SM, hein, ce projet, et donc il y a un établissement à Lille qui pourrait se créer.
Alors, moi, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle la Courée en santé, je crois, qui va être dans la métropole lilloise et qui est en train de se monter, un centre de santé communautaire. Et je sais que les collègues sont super motivés. Ils cherchent encore du monde pour agrandir leur équipe de professionnels. Et ils vont commencer un diagnostic communautaire dans le quartier où ils s'implantent. Mais je crois qu'on peut les trouver assez facilement sur Internet, la Courée en santé.
Vous, qu'est-ce que ça vous apporte, tout ça ?
Ah bah, moi, je fais ça parce que je trouve que c'est hyper important de poser les jalons, montrer des exemples de transformation du système de santé. Le système de santé, de soins primaires, de médecine générale, de médecine de ville, il n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Il y a une vraie crise. Et je pense que développer des alternatives comme celles qu'on développe aujourd'hui, c'est là pour être exemplaire, pour poser les jalons de la transformation des soins primaires. Voilà pourquoi moi je fais ça et voilà ce que ça m'apporte.
Alors, on a décidé de rentrer.
Non, moi je rentrerai pas, là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là.
Radio Campus 106,6, la radio qui ne rentrera pas là-dedans.
Oui, we are the losers, oui. But God save us and the queen.
Alors, ce congrès sur la santé mentale a été l'occasion aussi de parler de stigmatisation et de discrimination. Donc là, ça a été le cas avec Aude Caria, qui est directrice de Psychom. Informer, orienter, sensibiliser, faire changer les idées reçues sur la santé mentale, c'est l'objectif de Psychom. C'est un organisme indépendant qui offre un panel de ressources très riche sur cette question. Alors Aude Caria évoque les leviers qui sont efficaces, et c'est tout simple. La rencontre humaine avec les personnes qui permet de mieux comprendre ce qu'elles vivent, leurs difficultés et leurs ressources. Et puis, le dévoilement de soi. Cette interview a été réalisée suite à son intervention lors d'une formation du COFOR.
Bonjour, je suis Aude Caria, directrice de Psychom. Psychom, c'est un organisme national qui, depuis plus de 30 ans, informe, oriente et sensibilise sur la santé mentale. Les origines du Psychom, c'est des professionnels de psychiatrie parisiens qui, dans les années 90, début des années 90, se sont dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose contre le tabou autour de la psychiatrie. Et donc on crée plusieurs établissements psychiatriques parisiens, on crée un organisme pour communiquer sur la psychiatrie, sur les soins, sur les droits. Et au début, c'était essentiellement pour s'adresser aux médecins généralistes. C'était l'époque où les soins psychiatriques s'ouvraient sur la cité, on commençait à créer des CMP, des hôpitaux de jour, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire connaître les soins ambulatoires et de dire que si on avait des problèmes de santé mentale, la réponse n'était pas forcément à l'hôpital psychiatrique. C'est ça l'origine. Donc c'était en 30 ans, en fait, en plus de 30 ans, Psychom est passé d'un petit organisme parisien d'information sur la psychiatrie, un organisme national d'information sur la santé mentale qui s'adresse à toute la population.
D'accord. Donc ça a pris une dimension importante et ça a suivi l'évolution aussi de la société ?
Oui, tout à fait, parce que depuis plus de 30 ans, en fait, on essaye de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, etc. Et puis aussi d'aider les gens à s'orienter dans le système, parce que c'est pas toujours évident quand on va pas bien ou que un proche va pas bien de savoir où s'adresser. Donc on propose aussi sur notre site internet des annuaires, des ressources, etc. Et on a développé aussi toute une action de sensibilisation. On crée des outils pédagogiques, interactifs pour aller parler de santé mentale dans les écoles, dans les collèges, dans les entreprises, pour ouvrir des espaces de discussion autour de ce sujet-là, qui est encore un peu tabou, même si ça évolue. Et donc, ouvrir la conversation, en fait, et échanger un peu les idées reçues sur ces sujets.
Alors, tu es intervenue ce matin au COFOR. Qu'est-ce que tu retiens de cette intervention, des échanges avec les étudiants ?
Alors moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce matin d'intervenir au COFOR, parce que c'est une démarche vraiment originale et porteuse de sens, où c'est des personnes qui ont rencontré ou vivent encore avec des troubles de santé mentale et qui s'organisent pour s'auto-former. Et c'est vraiment une démarche tout à fait originale et qui mérite d'être soutenue. Au Psycom, nous, on a toujours travaillé dans ce qu'on appelle l'intelligence collective et la co-construction des savoirs. C'est-à-dire qu'on a toujours intégré, par exemple, quand on écrit une page sur notre site internet sur une thématique. Là, récemment, on va sortir une page sur la santé mentale des femmes, par exemple. Eh bien, on fait une enquête qui inclut à la fois des professionnels de la psychiatrie, mais aussi ça peut être des sociologues, et surtout on va interroger des personnes concernées par des troubles, parce que ça nous semble tout à fait intéressant d'intégrer le savoir dit expérientiel dans la construction de la connaissance sur les thématiques de santé mentale. Donc ce matin, j'étais vraiment très, très contente de pouvoir échanger avec plus de 15 personnes qui avaient toutes et tous des parcours différents, et de pouvoir parler d'une question essentielle qui est justement les mécanismes de stigmatisation, les mécanismes de discrimination qui concernent les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, mais en fait qui concernent toute la société.
Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de cette matinée ?
Ce que je retiens, c'est les échanges qui étaient vraiment très riches. Je pense qu'il y avait un climat de confiance entre les personnes et beaucoup de respect aussi dans les positions des uns et des autres. Moi, mon objectif, c'était un objectif pédagogique, c'est-à-dire de donner des repères pour comprendre les mécanismes de stigmatisation, d'auto-stigmatisation, tout ce qu'on appelle la psychophobie, en fait, qui est présente dans toute la société. Parce que c'est nourri par la peur de la folie, qui est une peur ancestrale qui nous habite toutes et tous. Et quand on vit avec des problèmes de santé mentale, on peut être victime de cette stigmatisation et on peut aussi se l'appliquer à soi-même, c'est-à-dire aussi avoir des mécanismes d'auto-stigmatisation qui vont nous empêcher parfois de faire des choses parce qu'on a des croyances limitantes sur nos capacités. Et je pense que le travail que fait le COFOR contribue justement à faire évoluer ces idées reçues, à faire changer les stéréotypes, en donnant des exemples très, très concrets de personnes qui reprennent du pouvoir d'agir sur leur vie avec ou malgré les troubles.
Alors ce matin, tu m'as parlé de ce qui marchait, de ce qui était efficace pour sensibiliser les gens, la population à ces questions-là. C'est quoi ce qui marche ?
Alors, ce que nous apprend la recherche, en fait, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il y a des actions de lutte contre la stigmatisation qui sont organisées dans plein de pays, notamment des pays anglo-saxons, et qui ont montré effectivement qu'il y a des choses qui marchent pour changer les idées reçues et d'autres qui marchent moins bien. Ce qui ne marche pas, c'est des grandes campagnes généralistes. Ce qui ne marche pas, c'est d'avoir un discours très neurobiologique sur les pathologies, de réduire les personnes à un dysfonctionnement du cerveau. Ça ne réduit pas la stigmatisation. Par contre, ce qui contribue à faire un peu évoluer les idées reçues, c'est ce qu'on appelle des actions de réduction de la distance sociale, c'est-à-dire des actions qui permettent de rencontrer des personnes qui vivent la stigmatisation et de discuter avec elles dans un cadre sécurisant. Donc, provoquer une rencontre humaine, en fait. Parce que ce qui génère le tabou, c'est souvent la peur et la méconnaissance. Et donc, des dispositifs comme les bibliothèques vivantes ou comme des initiatives qu'on peut voir à Lille, Dansons comme des fous, ou les semaines d'information sur la santé mentale, tout ce qui permet, en fait, de rencontrer des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale et qui peuvent expliquer leurs problématiques, les difficultés qu'elles rencontrent, les forces qu'elles ont, etc. Ben, ça fait évoluer notre compréhension des problèmes et ça diminue la stigmatisation. Après, moi, je suis convaincue que ça suffit pas pour changer le monde, on va dire, et qu'il faut porter une grande attention aux conséquences de la stigmatisation, c'est-à-dire les discriminations, c'est-à-dire le non-respect des droits. Le fait qu'on vive avec un problème de santé mentale, ça peut entraîner un traitement différent quand on veut avoir accès à un emploi, à un logement, à une formation, etc. Donc ça, c'est des situations de discrimination. Il faut y être très attentif parce que ça nourrit le cycle de la stigmatisation. Voilà.
Alors, je passe. Toi, tu t'es investi depuis beaucoup d'années dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui te fait espérer ou qu'est-ce qui te motive là-dedans ?
Bah, moi, ce qui me motive, c'est de faire avancer les choses, notamment concernant le respect des droits en psychiatrie. Avec un recul de 30 ans, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, même si on voudrait que ça aille plus vite, que ça change encore plus. Mais il y a 30 ans, on ne donnait pas leur diagnostic aux personnes soignées en psychiatrie, par exemple. On leur donnait aucune information sur leur traitement, sur les effets espérés des médicaments, sur les effets indésirables, etc. Et on a vu quand même les choses beaucoup changer, et notamment grâce à la mobilisation des personnes directement concernées. Via les associations de patients, de proches, via des actions de plaidoyer ou via des exemples comme le COFOR, par exemple. Mmh. Et c'est ça qui peut changer les choses en profondeur. Donc il y a des choses qui bougent. Et moi, je suis tout à fait optimiste par rapport aux changements à l'œuvre dans la société, parce qu'on voit aussi que, bah, mine de rien, on parle de plus en plus de santé mentale dans les médias, en famille, au bureau, à l'école, et qu'il y a vraiment une étape qui est franchie sur la libération de la parole autour de ces questions-là.
Alors, je ne sais pas si tu voudras en parler, mais il y a la question du dévoilement de soi. Et du coup, ça t'a concerné aussi à un moment donné ?
Oui, tout à fait. C'est une vraie question complexe. Il n'y a aucune obligation à dévoiler qu'on a des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est vraiment une décision propre à la personne, à la fois de savoir si elle veut le faire ou pas, et dans quelles circonstances, avec quels mots, etc. Moi, je me suis posé la question parce que j'ai traversé un épisode dépressif majeur il y a quelques années, et j'ai eu la chance d'être entourée, d'être accompagnée, d'être soignée et d'avoir une bonne acceptation au niveau de mon milieu de travail. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je me suis dit qu'en tant que professionnelle de santé mentale, responsable d'un organisme qui lutte contre la stigmatisation, si je prenais la parole sur ça, ben ça pouvait aussi contribuer à faire changer un petit peu les représentations, à faire bouger les lignes. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Après, c'est vraiment le choix de chaque personne de savoir si elle veut en parler ou pas, à qui. Je pense qu'il faut se sentir en sécurité, en fait, pour le faire. Et pour finir, dire à toutes les personnes qui écoutent que si elles cherchent des informations fiables ou une orientation pour elles-mêmes ou pour un proche, des informations sur la santé mentale des enfants, des parents, au travail, etc., n'hésitez pas à aller sur le site de Psycom, psycom.org, et vous trouverez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations.
a décidé de rentrer.
Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein.
Radio Campus 106,6, la radio qui ne rentrera pas là-dedans.
Oui, we are the losers, oui. But God save us and I'm the queen.
C'était donc Aude Caria de Psicom. Si vous voulez plus d'informations sur cet organisme, vous allez sur psicom.org.
Le matou, il s'appelle Reviens.
Alors, une autre initiative intéressante qui a été valorisée lors de ce congrès sur la santé mentale, l'association Cocogitation, qui est basée dans la région parisienne, propose d'intervenir dans les collèges, les collectivités ou les entreprises pour parler de santé mentale, favoriser des prises de conscience, partir des besoins et des ressources des personnes pour avancer, qu'elles soient des jeunes, des travailleurs, des... je ne sais quoi.
Alors, mon association est toute récente, elle s'appelle Cocogitation, et c'est justement une association de promotion de la santé mentale et de développement, de valorisation des compétences psychosociales et de lutte contre les discriminations, parce que on n'arrive pas à dissocier les discriminations et la santé mentale. Donc on intervient auprès soit des collectivités territoriales, soit d'entreprises qui font appel à nous pour sensibiliser à la santé mentale ou mettre en place des plans d'action ou de formation, soit en direction du public, soit en direction des agents directement.
Et alors, c'est venu d'où cette idée de créer cette association ?
De l'expérience, de notre expérience professionnelle précédente pour un territoire donné, où on a développé tout un plan de prévention dans une politique de santé publique, en fait. Et la méthodologie qu'on a développée autour de la santé mentale, on propose de la reproduire maintenant à titre associatif sur d'autres territoires.
Alors, vous prenez l'exemple d'une école, d'un collège dans lequel les enfants, enfin les jeunes devaient chercher un stage. Ça peut illustrer peut-être une idée un peu plus générale. Vous parliez de porte, par quelle porte entrer dans la santé mentale, c'est ça ?
Oui, c'est une anecdote qui est effectivement assez parlante, puisqu'on a évoqué les portes d'entrée de la santé mentale, où si on aborde le sujet frontalement, il provoque parfois du rejet ou en tout cas du désintéressement. Et la porte d'entrée dans un collège avait été par exemple la recherche de stage, où en partant du principe qu'on avait des informateurs jeunesse qui voulaient aider des jeunes de 3e à trouver un stage choisi et non subi. Donc un sujet qui a priori est très éloigné de la santé mentale, qui est très scolaire, et en fait en remontant, en appliquant une méthodologie de projet tout simplement, en cherchant à répondre aux besoins des jeunes pour arriver à cet objectif, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas besoin de liste d'entreprise, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de faire un CV, mais pour faire un CV on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'identifier leurs compétences, que ces compétences ne pouvaient être que des compétences psychosociales. Mais on s'est aussi rendu compte qu'ils avaient un défaut d'identification de ces compétences, et y compris de leur connaissance d'eux-mêmes, de leur estime de soi. Et donc, on en est arrivé à animer des ateliers de développement de compétences psychosociales, notamment la connaissance de soi et l'estime de soi. Par conséquent, de parler de santé mentale auprès de ces jeunes, alors que l'objectif initial était très éloigné de ceci.
Il y a d'autres exemples, en fait, que vous pourriez citer, d'autres portes d'entrée ?
Toutes les portes sont possibles, en fait. C'était un petit peu le propos de notre symposium, c'est qu'il faut, chercher où se trouve la santé mentale dans l'objet que l'on observe, et on la trouve forcément. Il y a les portes un petit peu évidentes, comme la lutte contre le harcèlement, comme les violences faites aux femmes. Il y a ces portes d'entrée un petit peu, voilà, où le lien est facile à établir. Mais quand on parle de dynamique managériale, de dynamique d'équipe, la santé mentale, il suffit juste de pointer du doigt le lien. On parle souvent de médiation de la signification, d'ailleurs. Donc je viens mettre des mots sur ce ce dont j'ai besoin, sur ce que je veux développer et sur ce à quoi je dois faire attention. Et typiquement, dans une dynamique d'équipe, ce à quoi je dois faire attention, c'est le bien-être de mon collègue si je veux qu'il soit réactif et productif. Et donc, à un moment, je vais devoir mettre en place des process ou des relations ou des postures dites bienveillantes. Et donc le lien avec la santé mentale d'un coup vient sauter aux yeux comme ça. Et ça, c'est un système, une méthodologie de projet qu'on peut reproduire sur tous les objets.
Il y a une question aussi de prise de conscience aussi de sa propre santé mentale pour les professionnels, enfin toutes les personnes qui peuvent intervenir, c'est important.
Tout à fait. On s'adresse avant tout à des humains, des êtres humains. Et donc le premier discours à tenir, c'est que nous avons toutes et tous une santé mentale et qu'il faut s'en préoccuper. Nous avons toutes et tous une santé physique et on cherche à s'entretenir, à faire attention à son hygiène de vie, à faire attention aux activités qui pourraient nous nuire, à celles qui nous entretiennent. Pour la santé mentale, c'est la même chose. Ça, c'est quelque chose d'universel. Nous sommes toutes et tous des êtres humains. Donc, c'est aussi une autre porte d'entrée, d'ailleurs, pour parler parfois de santé mentale. C'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien.
Il y a aussi cette question de la prise de conscience de ses propres ressources ou de faire déjà en fait un travail autour de cette question de psychosociale, enfin en fait ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, que les personnes en fait ça leur permet de se rendre compte qu'elles font déjà
oui.
du travail là-dessus, de repérer en fait ce qu'elles font
oui.
voilà, enfin en tout cas c'est important aussi,
c'est surtout important pour les embarquer dans l'aventure. Quand on veut développer les ressources et quand on veut travailler sur la santé mentale, c'est de prendre conscience qu'en fait on ne va pas chercher, c'est pas une charge ou une charge mentale ou une charge de travail supplémentaire, c'est juste voir ce que l'on fait déjà sous un autre angle qui va renforcer ce qu'on fait déjà en fait. C'est souvent quelque chose qu'on dit, c'est qu'on explique aux professionnels que ce sont des monsieur Jourdain de la santé mentale. Ils font de la santé mentale sans le savoir, en fait. Mais par contre, le fait d'en prendre conscience, sans faire quoi que ce soit de plus, permet de renforcer leur action et donner davantage de sens à leur action, ce qui les valorise aussi au passage.
Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce qui se passe ici ? Juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé, que vous retenez qui...
Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même ce concept de culture commune qui progresse autour de la santé mentale. Ne serait-ce que le fait que la santé mentale ne se résout pas à l'absence ou la présence de troubles psychiques. Ça, c'est quand même une idée qui a fait son chemin depuis quelques années. Le fait que de plus en plus de personnes, et notamment de professionnels, d'institutions, se sentent concernés, et à juste titre, par la santé mentale, ça progresse. Et puis ce que j'en retiens aussi, c'est quand même on a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'aspect promotion de la bonne santé mentale, prévention aussi et surtout où la plus grande marge d'évolution, de progression pour moi, elle est là.
Merci beaucoup.
Ça vous va ?
Ouais. Alors, une autre thématique qui a été évoquée lors du congrès, la thématique du cancer. Le trouble psy est-il un handicap pour se faire soigner ? Comment améliorer la santé globale des personnes ayant un trouble psychique quand on sait qu'elles ont une espérance de vie réduite de 13 à 16 ans par rapport au reste de la population ? Alors certes, elles peuvent être plus vulnérables du fait de facteurs de risque plus importants, mais pas que. Concernant les cancers, elles subissent des erreurs et des retards de diagnostic. Un état de fatigue, une perte de poids, c'est l'état dépressif, dira-t-elle soignant. Elles se révoltent face à un comportement stigmatisant ? C'est encore un coup de leur maladie mentale. On en arrive à ce paradoxe. Une fois diagnostiquées, elles peuvent se sentir mieux reconnues socialement, car elles ont une vraie maladie, comme tout le monde. Les solutions, former les psychiatres comme les médecins généralistes à ces questions, sensibiliser au dépistage et à la prévention, travailler un parcours de soins adapté à la personne, tabler sur les soins de support qui ont une approche globale. On écoute Christophe, qui cumule troubles bipolaires et cancer.
Alors Christophe, j'ai 63 ans, j'ai été diagnostiqué bipolaire il y a 3 ans, après 35 ans d'errance psychiatrique, hospitalisation, etc. Voilà.
Alors donc là, on vient d'assister à la rencontre sur les liens entre psychiatrie et cancer, enfin troubles psychiatriques et cancer, et la difficulté à repérer ça et à le soigner. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu as vécu aussi?
Ah ben moi j'ai vécu, effectivement, je suis en train de vivre un cancer, hein, qui a été d'ailleurs diagnostiqué en même temps que ma bipolarité, super. Donc j'ai vécu beaucoup de stigmatisation de la part des oncologues, enfin d'un oncologue en particulier. Je pense que ça vient aussi du fait que mes connaissances du trouble psy, en particulier la bipolarité, je pense que ça vient aussi du fait que j'ai été un peu revendicatif sur mon traitement, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses que j'ai acceptées, que j'ai refusées, et je crois qu'il y a eu un lien qui a été fait avec ma pathologie psychiatrique, donc j'ai, voilà, et encore aujourd'hui, bon, on nie mes souffrances somatiques, hein, c'est le fruit d'un esprit malade, et voilà, quand j'ai... Et que faire lorsqu'on est dans ce genre de situation, c'est pas évident, parce que on peut saisir juridiquement les médiateurs, etc. Mais moi, j'ai aucune preuve que cette personne m'a discriminé, alors que je l'ai entendu très clairement dans un couloir parler de moi en des termes pas très sympas.
C'est-à-dire ?
Ah, c'est encore le bipolaire, voilà, ce sont des genres de considérations. Ma psychiatre qui envoie un courrier pour changer mon traitement, dire s'il y a des interférences médicamenteuses avec les médicaments oncologiques, on ne lui répond pas. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses du coup de ces recherches, de tout ce qui a été évoqué pendant cet atelier, cette histoire aussi d'erreurs de diagnostic?
Il y a énormément de travail à faire. Il faut sortir des schémas conventionnels, il faut que la médecine soit moins compartimentée pour avoir une approche holistique des malades. C'est c'est un vaste sujet.
Et alors les solutions qui sont évoquées, qu'est-ce que tu en penses? La formation des soignants
Je crois qu'il faut sensibiliser effectivement les soignants aux troubles psychiques, c'est pas évident. Parce qu'on a une image en tant que malade psychique très très péjorative dans la société. Voilà, donc c'est un problème carrément sociétal au-delà de la formation. Là, je pense au problème qu'on connaît en France sous toutes les formes de handicap. Il y a une personne qui a parlé aussi de racisme. C'est une question, je pense, de regard de la société envers la différence. Voilà. C'est peut-être la société qu'il faut éduquer avant les médecins.
Oui, c'est ce que disait un des intervenants, en fait, même par rapport au déni, en fait, on a l'impression que ces personnes qui ont un trouble psy ont davantage de déni, n'observent pas, ne prennent pas les médicaments, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai.
Ah non, en tant que bipolaire, je fais un traitement quotidien. Et à la limite, je suis peut-être plus observant qu'une personne qui ne le serait pas. Sur d'autres pathologies, je pense que c'est... On a affaire à une médecine, là on parle d'oncologie, on a affaire à une médecine de technicien. Et comme j'ai eu le malheur de dire à mon oncologue, vous êtes le technicien, mais c'est moi le patron.
Ça peut créer quelques petits problèmes relationnels.
Oui, c'est la réalité.
Thank you.
Vous avez pu écouter lors de cette émission les musiques de Marianne Berthaud de Seultourbe, une musicienne lilloise pleine d'allant, pleine de talent. Si vous êtes intéressé par toutes les activités de la Société française de santé publique qui a organisé ce congrès sur la santé mentale, vous pouvez aller voir leur site congrès.sfsp.fr. Pour retrouver aussi tous ces podcasts, vous pouvez écouter Radio Campus, en différé, sur le site campuslille.com et également de façon plus prolongée sur le site du Matou, lematourevient.bandcamp. Voilà pour aujourd'hui, le Matou revient, c'est terminé. Belle journée, ciao.
Jean, t'as mal au dos?
Ah non, j'ai une plus.
Radio Campus, cherchez pas à comprendre.